autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour notre rendez-vous mensuel avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Il y aura, vous le savez, comme chaque mois, des magazines à gagner. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, nous fêtons aujourd'hui l'arrivée d'un petit nouveau, Epsilon, un nouveau magazine d'actualité scientifique qui, comme son nom l'indique, explorera le monde à toutes les échelles, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça donne envie. Envie de prendre un peu de hauteur aussi, sous les étoiles exactement. Grâce à notre éphéméride mensuelle Ciel d'Afrique, le rendez-vous de tous les astronomes, amateurs et professionnels du continent que vous retrouverez en fin d'émission, après avoir écouté le son de la planète Mars avec Émilie Martin de Ciel et Espace, et presque réussi peut-être à envoyer une fusée sur la Lune, nous verrons bien, et nous traquerons les univers parallèles en quête d'autres dimensions carrément. Ce sera avec Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie. Nous découvrirons aussi les failles psychologiques de la justice, ou plutôt de l'injustice, avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, qui nous alertera sur les biais cognitifs qui perturbent les décisions des jurés et des juges au tribunal. Le tout étant d'en prendre conscience. La conscience qui est aussi à la une de la recherche. Son rédacteur en chef Philippe Pageot nous éclairera sur ce très vaste sujet et nous présentera aussi une nouvelle génération très prometteuse de scientifiques africains et africaines, avec le portrait de l'épidémiologiste sud-africaine Quareisha Abdul Karim. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, ici comme ailleurs, bienvenue. Et bienvenue à Epsilon, tout nouveau magazine d'actualité scientifique dont le premier numéro est en pleine préparation pour une sortie prévue en juin. Bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors nos auditeurs vous connaissent Mathilde, car vous faisiez partie de l'équipe de Science et Vie, magazine de référence dont vous avez démissionné comme la quasi-totalité de l'équipe hein, suite à son rachat par Reworld Media, un grand groupe on va dire peu scrupuleux et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à toute chose malheur est bon, puisqu'avec Hervé Poirier, ancien directeur de la rédaction de Science et Vie, et vos collègues conteurs de science, conteurs de vie, vous avez réussi à monter donc un nouveau magazine scientifique, et ça se fait, tous nos collègues sont ravis, moi aussi. Et puis vous lui avez donné un nom prometteur, Epsilon.
Oui, on a tourné autour de l'infini très vite, en fait, par un logo, hein. D'abord ce signe infini qui est si esthétique, hein, qui est un 8 couché, et en travaillant autour de ça, le mot epsilon s'est imposé, puisque c'est à la fois en mathématiques la quantité infinitésimale, hein, on le sait, et à la fois aussi, on le sait moins, en fait c'est l'infini à l'exposant infini une infinité de fois, et ça nous a amusé cette pirouette entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre l'infiniment léger et l'infiniment profond, ça nous a semblait bien représenter notre projet à nous, qui est de parcourir le monde à toutes les échelles, quoi. Voilà.
C'est ça, de le parcourir et de le faire passer. C'est un magazine d'exploration, d'histoire de science, de questions, hein, parce que nous on aime bien ça, les questions, vous le savez, oui. Ici sur RFI. Mais c'est ça en fait, c'est l'idée de tout explorer très largement.
Oui, c'est Epsilon, son objet, ça va vraiment être le réel. Hein. Le réel, le monde, le climat, l'univers, le corps humain. Et après, on va adopter cet angle scientifique pour montrer à quel point le réel peut être révélé surprenant par la science, ou peut être analysé par la science, peut être même transformé hein, par la science dans la technologie, etc. Et effectivement, notre idée, c'est vraiment de se focaliser comme ça sur le réel et de se lâcher un peu quelque part, de partir à la rencontre de ce réel toujours plus surprenant. Hein. On a passé une année qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On aurait pu imaginer qu'une si petite bête puisse bouleverser autant de choses le monde depuis un an maintenant. Et vraiment, on va se mettre au service de ces histoires-là. Et c'est vrai qu'on arrive avec une équipe de journalistes qui sont tous très expérimentés, qui font de l'actualité scientifique depuis 10, voire même 20 ans pour certains.
Jeunes et très expérimentés, ça c'est pas mal. Vous avez les deux, hein, Mathilde.
Pardon,
je dis jeune et expérimenté. Les deux à la fois, c'est pas mal.
Et rafraîchi aussi par le projet, puisqu'on a, on a tous travaillé longtemps à Sciences et Vie, mais on a appris aussi à prendre de la distance avec ce magazine qu'on avait tant aimé au cours de ces dernières semaines en fabriquant Epsilon, en le pensant. On a appris à se détacher de certains des codes qu'on avait à Sciences et Vie. On a appris à se lâcher, à être plus léger, plus gai, peut-être plus coloré, plus moderne, peut-être, on l'espère. Et en tout cas, à se mettre au service de ces histoires qui nous semble être vraiment notre spécialité, c'est-à-dire aller chercher quelque chose, une histoire vraiment originale, en partant de cette matière première incroyable, hein, qui est les centaines de milliers de publications scientifiques qui paraissent chaque mois et qui à chaque fois nous renverse, hein, notre vision du monde.
C'est ça, hein, c'est vraiment la curiosité en premier lieu, hein, c'est d'éveiller notre curiosité. Vous personnellement, Mathilde, alors on va pas divulgacher le sommaire du premier numéro, on vous recevra pour ça, mais sur quoi avez-vous travaillé ou quel sujet vous pourriez comme ça nous faire passer un peu entre les oreilles pour nous donner un avant-goût?
Ben on essaye de garder un peu secret les articles dont on va parler dans le numéro 1 qui paraîtra fin juin, mais on viendra en parler à votre table, j'espère.
Ah oui, moi aussi j'espère bien.
On a déjà une histoire que je peux vous dévoiler qui est assez incroyable, c'est cette découverte en éthologie d'une adolescence universelle. Les éthologues, à force d'étudier les vertébrés, hein, ce sont des études qui sont menées sur les vertébrés, découvrent que, par exemple, les souris vont abuser de l'alcool gravement, que les chimpanzés vont sortir en bande.
À l'adolescence,
les vaches vont chercher, en tout cas vont avoir leur personnalité se modifier brutalement pour se remettre après. Et on observe comme ça dans toutes les disciplines, mais de manière encore un peu disparaître, assez balbutiante, une sorte de concept universel de l'adolescence qui nous fait, nous humains, nous, au-delà même de cet anthropocentrisme qu'on peut reprocher, mais là, ça remet l'humain aussi au centre de son grand genre des vertébrés et de dire que finalement cet état d'adolescence et qui est un état de préparation à l'âge adulte, hein, et au danger de l'âge adulte, d'exploration aussi et d'évolution. Cet état se retrouve chez tous les vertébrés. Donc, on a comme ça un bruissement de nombreux chercheurs qui commencent à appréhender cette notion.
Passionnant. Bah, j'attends, moi, personnellement, ça, je dois dire avec impatience, le premier numéro pour lire cette histoire. Hein. Tous ados, hein, tous les grands ados que nous sommes, très curieux et amateurs de sciences, on le comprend bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bienvenue au club, Mathilde Fontaise et toute l'équipe, hein, que vous embrassez pour nous, toute l'équipe d'Epsilon. Et on vous retrouvera l'une l'autre, avec grand plaisir autour de notre table ronde mensuelle en juillet, hein, pour la sortie du premier numéro d'Epsilon fin juin. En attendant, on peut soutenir sur Ulule ce magazine indépendant en s'abonnant d'avance. Vous avez eu, c'est un record aujourd'hui, vous avez lancé cet abonnement, ce pré-abonnement, et ça marche déjà. Vous avez combien de pré-abonnements, Mathilde?
Oui, on est très contents. On a déjà plus de 6500 préabonnements et on a vraiment l'impression que ça y est, le magazine est né, même s'il n'est pas encore en kiosque. On a l'impression qu'il est né, ça y est. Il a déjà, en tout cas, plus de 6500 lecteurs abonnés.
On croise les doigts et ça prouve. Et ça prouve qu'il y en a besoin autour de la question. Merci Mathilde, à bientôt. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, donc au nord comme au sud. Allez, direction l'Afrique du Sud, maintenant en musique d'abord, en recherche ensuite, dans le magazine du même nom, La Recherche, qui fait la part belle à une nouvelle génération de scientifiques africains. Vous nous en direz plus, cher Philippe Pajot, juste après avoir écouté une des plus douces voix contemporaines d'Afrique du Sud. Il s'appelle Bongeziwe Mabandla sur RFI. Sizier, quel est le signé Ma Bande là sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusqu'en Afrique du Sud. Bonjour Philippe Pajot.
Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde.
Merci d'être en direct dans notre studio en présentiel. On est ravis, ça fait du bien.
Ça fait plaisir.
Voilà,
oui,
même avec un plexiglas, on est content d'être en face et avec plusieurs exemplaires de votre magazine La Recherche afin de le faire gagner. Alors vous le savez, chers amis auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook et vous pourrez lire, entre autres, l'entretien d'une des plus éminentes épidémiologistes du continent, la sud-africaine Quaraïcha Abdul Karim, directrice scientifique associée du Centre de recherche sur le sida, le CAPRISA, qui revient alors à la fois sur les défis immenses et sur les opportunités, sur la recherche en Afrique du Sud, en particulier liée à ce que l'Afrique du Sud a dû de fait apprendre du VIH-Sida.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'Afrique a été très, très touchée par le sida, évidemment. L'Afrique du Sud en particulier, hein, parce qu'ils ils représentent 1% de la population mondiale et ils ont 20% des infections mondiales. Et dans la province du KwaZulu-Natal, qui est sur la côte est, 40% des femmes enceintes, nous rappelait Karash Abdul Karim, 40% sont atteintes du VIH. Donc, c'est quand même
c'est énorme.
Voilà. Alors, évidemment, ça a posé des problèmes. Pour traiter l'épidémie de Covid-19, mais bon, d'un autre côté, ils étaient aussi un peu habitués à la surveillance, etc. Notamment pour ce qui est des médicaments. Alors là je reviens sur le sida. Ils avaient des réserves de médicaments pour des mois et des mois parce que comme il y a eu des problèmes d'approvisionnement, ils ont réussi à avoir suffisamment de médicaments pour que les traitement ne s'interrompt pas pendant les
problèmes. Oui, ils avaient déjà cette expérience-là et ils ont ce qu'on ne sait pas toujours. Et là, on peut remercier Luc Allemand, qui est l'auteur de l'article avec AfriCitec, qu'il y a vraiment une nouvelle génération de chercheurs comme Quaraïcha Abdul Karim qui sont vraiment des recherches d'excellence, notamment en épidémiologie. Enfin, que la recherche avance sur le continent et en particulier vraiment en Afrique du Sud, très touché, mais qui a les armes pour lutter et qui a les cerveaux pour lutter.
Tout à fait, c'est ce que nous raconte cet épidémiologiste, effectivement, c'est sur son parcours, à travers son parcours, cet entretien, l'idée c'était de voir un petit peu ce qu'elle avait fait. Et donc elle raconte effectivement comment elle a commencé à travailler à Columbia en 88, là où quand le sida commençait, évidemment, et elle s'est posé la question, elle a bien vu que si elle voulait faire avancer les choses en Afrique, il ne fallait pas rester à Columbia, il fallait retourner en Afrique. Ce qu'elle a fait, et dès 89 d'ailleurs, elle a commencé à monter la première enquête épidémiologique sur la prévalence du sida en Afrique et en Afrique du Sud en particulier. Et c'est comme ça qu'elle a monté en fait ces premières études sur le sida. Et en fait, ce qu'elle dit, je trouve ça très juste, c'est qu'en fait, il faut être là où les défis se présentent afin d'avoir une compréhension précise de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est important pour elle que les chercheurs africains
soient sur place.
Ils ne se contentent pas de collecter des données, des échantillons pour les autres continents, mais qu'ils aident à répondre en fait aux questions et aux défis. Et donc le CAPRISA, cet institut qu'elle a aidé à créer, avait pour cela un exemple vraiment type, puisqu'ils ont démarré en 2002 avec des collaborations avec l'Afrique australe, mais également d'autres collaborations. Et ils sont arrivés effectivement à avoir des résultats vraiment très importants. Donc, pour donner quelques exemples, c'est eux qui ont fait la preuve de concept des antirétroviraux pour prévenir l'infection du VIH en 2010. Ils ont évidemment travaillé sur la co-infection tuberculose-VIH, la tuberculose étant une maladie terrible en Afrique, qui tue quand même 500 000 personnes chaque année, 2,7 millions de cas par an, la tuberculose, et donc c'est vraiment tellement très très important de voir comment on pouvait faire, et là encore les antirétroviraux jouent un grand rôle.
Oui, c'est vraiment grâce à ces chercheurs d'Afrique du Sud qu'il y a ces antirétroviraux qui jouent un rôle partout pour le monde entier.
Exactement, et c'est eux aussi qu'on découvert les anticorps à large spectre qui pourraient ouvrir vers un vaccin contre le VIH, mais pour plus tard. Et donc tout ça pour montrer qu'effectivement il y a des choses qui se passent en Afrique. J'ai dit qu'il y avait des collaborations. Donc, pour donner quelques pays, en tout cas pour le CAPRISA, qui est en Afrique du Sud, il collabore avec la Zambie, le Nigeria, Namibie, Botswana et plein d'autres pays.
Et est-ce que cette expérience-là peut servir dans le cas du Covid, de cette pandémie? On sait que le variant sud-africain est particulièrement à suivre et que l'Afrique du du Sud est un des pays du continent le plus touché par le Covid. Est-ce que du coup, vous avez dit que cette expérience avait servi pour avoir assez de médicaments. Enfin, il y a des choses que savent les Sud-Africains et les chercheurs sud-africains. Mais est-ce que ça peut...
Alors, ça peut servir. Alors... Cet institut de recherche contre le sida, justement, il traite à très très large spectre, c'est-à-dire qu'il va de la recherche très fondamentale jusqu'au chevet du malade. Et donc, ils ont toute expérience très très large.
Ouais, c'est là, très intéressant.
Et du coup, on peut se dire que pour le Covid, évidemment, on pourrait imaginer des centres analogues. Ça sert aussi, justement, d'exemple pour d'autres centres qui pourraient se créer en Afrique, avec ces difficultés qu'en Afrique, en fait, ils ont une fuite des cerveaux énorme. Et en gros, pour 120 personnes africains qui sont formées en Afrique ou ailleurs, il y en a 10 à 20 seulement qui reviennent en Afrique. Donc, c'est extrêmement, extrêmement faible. Et pour ça, pour éviter ça, justement, elle a pas mal d'idées qu'elle développe ici. Notamment, elle dit qu'il ne faut pas les laisser partir trop longtemps à l'étranger. Parce que s'ils partent plus d'un an, il y a peu de chances qu'ils ne reviennent plus. Donc, voilà, essayer de mettre en place des programmes qui soient adaptés pour qu'ils puissent ensuite revenir et faire profiter les centres de recherche locaux. Avoir des initiatives pour monter des nouveaux centres de recherche également, promouvoir les jeunes, puisque les jeunes sont évidemment une force énorme en Afrique.
Et puis peut-être aussi faire entendre justement et faire connaître la parole de ces grands épidémiologistes. Il n'y a pas qu'elle, mais il y en a. Bon, vous lui donnez la parole à Aquarisha Abdulkarim, mais il y a vraiment une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses d'excellence qui reviennent sur le continent. Et c'est vrai que rien que leur donner la parole et dire qu'ils existent et que ça existe et qu'on peut revenir et mener une bonne recherche sur le continent, même si c'est plus compliqué qu'ailleurs, eh ben ça peut valoir le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Philippe Pajot, que le numéro de la recherche est consacré à la conscience.
Alors, la conscience, effectivement.
Mais que c'est un vaste sujet.
On a un très gros dossier sur la conscience où on traite tous ces aspects, le rêve, le sommeil, les états altérés de la conscience.
Tout ça, c'est à lire dans ce trimestriel, la recherche, qui est donc disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois de juin, et puis qui est aussi à gagner, vous le savez, chers amis auditeurs qui résidez loin, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Philippe Pajot, et à bientôt autour de la recherche, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusqu'au tribunal. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi et comment certains biais cognitifs fausse notre jugement, et donc celui des jurés ou des juges qui doivent rendre la justice. C'est Cécile Estienne de Cerveau et Psycho qui nous fera découvrir les failles de la justice et comment y remédier, juste après avoir écouté les sages revendications en la matière de Tiken Jafakoli sur RFI Justice.
They want a peace and a promise, just a taste of it. Hey! Wow, daddy, cool! Hear me when I play when my song will lead the way. Each and every day, when I say, move and move, and just as I will say. Give it! Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Qu'ils sont au-dessus et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi.
Tiken Jafakoli sur RFI, quand la justice n'est pas faite pour nous. Comment sommes-nous influencés justement par nos biais cognitifs, nos idées reçues et nos jugements à l'apparence qui peuvent être trompeuses? Bonjour Cécile Estienne.
Bonjour Caroline, bonjour tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous. Philippe Pageau vient de nous quitter et puis Émilie Martin vient d'arriver dans le studio. Donc merci de vos bonjours, ma chère Cécile Estienne, qui est en ligne avec nous en direct pour partager donc cet étonnant dossier de cerveau et psycho sur les failles de la justice, c'est ça ?
Absolument. Dans cet article, il y a trois professeurs de psychologie, André Didier-Jean, Cyril Thomas et Aglaé Navarre, voilà, qui ont recensé pour nous tous les biais cognitifs qui pouvaient mettre à mal l'impartialité de la justice, quel que soit le bon vouloir, la bonne volonté et la probité des juges, des jurés ou des gens impliqués dans les affaires judiciaires. Hein. Ce n'est pas du tout de cette question-là qu'on est allé. Mais parce que nous avons des biais cognitifs qui nous empêchent souvent d'être impartiaux. Ces biais cognitifs, en fait, c'est des raccourcis mentaux et inconscients qu'on appelle souvent des heuristiques, voilà, et qui nous permettent dans la vie de tous les jours de faire des choix très rapidement, voilà, sans se prendre la tête, comme on pourrait dire aujourd'hui. Voilà.
Ces choix nous influencent. Et ces choix, par exemple, Cécile
le problème, c'est que On a ces heuristiques dans le cerveau parce que c'est pratique. C'est ce qui vous permet de le matin automatiquement de préparer votre petit déjeuner sans réfléchir pendant trois heures à ce que vous allez prendre. Voilà. Le problème, c'est que comme ce sont des choix et des décisions rapides, parfois ça vous amène à des erreurs de jugement. Et dans le domaine de la justice, évidemment, c'est très malvenu. Voilà. Alors, par exemple, la recherche, les chercheurs ont répertorié plusieurs biais cognitifs à l'œuvre. Alors, notamment la trie physique. Si vous êtes beau, enfin si vous êtes attirant, si l'accusé est beau et attirant, il a plus de chances d'avoir une peine moins sévère que s'il a un physique moins agréable. C'est lié à l'effet de halo. Voilà. Ce qui fait qu'on tire souvent des conclusions générales à partir d'une seule caractéristique. Donc, si vous êtes attirant, on va avoir tendance à vous attribuer d'autres caractéristiques positives, c'est-à-dire vous êtes intelligent, sociable,
gentil, bienveillant. Et elle lit l'article
sur la victime.
Ah, ça joue aussi sur la victime. Il vaut mieux qu'elle soit quoi, moche ou non, belle la victime.
Fait, si la,
non, mais je vais galer carrément.
Si la victime, si la victime est plus attirante, elle sera plus soutenue et l'accusé sera plus sanctionné.
D'accord. Donc, il vaut mieux qu'on soit victime ou accusé. Il vaut mieux être, attirant, beau plutôt attirant. Que laid, riche plutôt que pauvre et femme plutôt qu'homme, si j'ai bien lu.
Alors ça, c'est lié aussi à d'autres choses. Effectivement, les peines ne sont pas les mêmes, en tout cas, sont biaisées suivant le genre, suivant l'âge et souvent aussi l'ethnie de la personne en question. Parce qu'en fait, tout ça, ça attire les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est notre, notre façon à nous de ranger tout le temps les gens dans des petites boîtes. Vous savez, les Italiens sont séducteurs, les Allemands sont obéissants, les Français sont râleurs, ce genre de choses. Alors, ces stéréotypes ne sont pas statistiquement toujours totalement faux. Mais évidemment, individuellement, ils le sont. Et par ailleurs, parfois, ils sont complètement aberrants. Mais ça active ces stéréotypes, et ce qui fait que dans les tribunaux, on a pu montrer que les hommes sont jugés plus sévèrement que les femmes. Pour une même infraction en France, on a pu mesurer que les hommes prenaient 20 jours de plus que les femmes de prison.
Donc, si je résume, mieux vaut être belle, riche, bien portante que pauvre, basanée, malade. Enfin, en gros, quoi.
Comme dans la vie courante, malheureusement.
C'est ça. C'est assez terrible. Mais finalement, le fait d'en prendre conscience peut nous permettre de dire « Attention, va pas trop vite ». C'est peut-être un peu
absolument.
Ça comme réflexe.
Absolument, c'est ça. Parce que alors qu'il y a beaucoup d'autres recherches qui sont mises en avant dans cet article, qui peut montrer que effectivement tout ça, c'est l'âge varie. Si vous êtes vieux, vous prenez moins cher que si vous avez 25 ans, ce genre de choses. Que souvent le dernier témoignage a plus d'impact que le premier. Que même une chose fausse qui a été dite, on a du mal à s'en débarrasser. Ce qui, au temps des réseaux sociaux, est un petit peu embêtant. Quand les jurés ont entendu des accusations fausses, ils ont du mal à les oublier, ce genre de choses. Voilà. Mais toutes ces recherches, malheureusement, sont assez passionnantes et parfois même amusantes à lire, il faut l'avouer. Mais elles ne donnent pas de solution sur comment s'en sortir, à part que, en être conscient, peut aider quand même tout un chacun, même dans la vie courante, à ne pas réfléchir trop vite.
C'est ça, à ne pas réfléchir trop vite, à ne pas mettre les gens dans des cases, à ne pas généraliser. Si on le faisait un tout petit peu, ça irait un peu mieux. Et si on avait plus de temps, on aurait parlé, mais là je vais renvoyer nos auditeurs sur cerveau et psycho, Cécile Essienne, de la chronique du professeur de psychologie Yves-Alexandre Talman, pour nous éviter les arnaques sur Internet et d'être trop crédule.
Pour éviter, pas exactement, c'est-à-dire ces arnaques, vous savez, où on vous promet un héritage magnifique si vous donnez le numéro de compte bancaire, la plupart du temps. En tout cas, j'espère, Caroline, que vous les jetez immédiatement dans la poubelle.
Oui, absolument, je ne les ouvre pas.
Mais pourquoi sont-ils si mal faits? On peut se dire que ces escrocs sont stupides, mais pas du tout, c'est fait exprès. Mais pour le savoir, il faut lire Cerveau et Psycho.
Et ben voilà.
Le site de Cerveau et Psycho.
Voilà. Et ben on vous renvoie donc sur le site de Cerveau et Psycho. Et puis pour être donc vigilant et conscient aussi de nos biais cognitifs, et bien lisez le magazine Cerveau et Psycho que vous pouvez acheter en kiosque, bien sûr. Et dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs et auditrices. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on vous dit. Ben, au mois prochain, Cécile Essienne, en chair et en os peut-être, au plaisir absolument, dans une autre dimension, voire même dans des univers parallèles, ça sera tout à l'heure, avec Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie, qui nous dira tout juste après les riffs de guitare des Red Hot Chili Peppers, Parallèle Universe sur RFI. Les Red Hot Chili Peppers sur RFI, Parallèle Universe. De circonstances pour vous accueillir, Thomas Cavaillé-Foll, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en ligne, pas en vrai, désolé, en direct avec nous tout de même, pour partager la traque des univers parallèles, rien que ça. C'est le dossier de Science et Vie de ce joli mois de mai qui nous entraîne sur les traces de chercheurs audacieux jusque dans d'autres dimensions. C'est de la science ou de la science-fiction, Thomas Cavaillé-Foll?
Eh ben, c'est un peu les deux. C'est vrai que la version des univers parallèles, on en voit partout, dans Stranger Things, par exemple, pour parler des dernières séries. Mais en fait, c'est aussi une hypothèse tout à fait envisageable dans ce qu'on appelle la théorie des cordes. Vous savez, la théorie des cordes, c'est une théorie physique qui n'est pas encore prouvée, mais qui tente de répondre à un problème, certaines anomalies du modèle standard aujourd'hui de la physique. Et donc la théorie des cordes, certaines de ses interprétations obligent d'imaginer au sein de notre univers, en fait, des univers parallèles.
C'est-à-dire qu'en même temps que je vous parle, c'est ça, hein, il y a un autre Thomas Cavaillé-Foll qui parle peut-être à une autre Caroline Lachowski dans une autre dimension, carrément.
Ah, c'est peut-être. En fait, on pourrait tout imaginer. Ah. c'est pas forcément des univers exactement comme le nôtre.
Bon, vous me rassurez.
Voilà, en fait. Mais en fait, notre univers, nous, on ne serait qu'une branne parmi d'autres. On appelle ça des brannes.
Une branne notre...
Oui, c'est une théorie des mondes brannaires. En fait, notre univers serait donc une branne à trois dimensions de l'espace, plus une dimension temporelle. Mmh. Et elle habiterait au sein d'un espace-temps bien plus vaste qu'on appelle le bulk, qui lui pourrait abriter en fait d'autres branes totalement détachées de la nôtre. Un peu comme si vous imaginiez en fait des feuilles de papier qui volent dans un univers en 3D, quoi.
D'accord, et donc il y aurait plusieurs feuilles de papier en même temps, ce serait ça les différents branes,
c'est ça,
hein?
D'accord. Exactement, et donc différents univers. Et en fait, cette théorie des mondes branaires, elle répond à quelques interrogations qui aujourd'hui sont des anomalies en physique. Par exemple, elle pourrait expliquer le Big Bang, pourrait être un choc survenu après un choc entre deux branes, en fait. Mmh. Ou alors, vous savez, on est toujours en recherche de la matière noire, on ne sait pas où elle est dans notre univers. Ouais. Et ben, elle pourrait tout simplement avoir été diluée au sein d'une autre branne. En fait, ça répond comme ça à plein de petites interrogations qui sont encore des problèmes dans la clinique d'aujourd'hui.
Mais excusez-moi, Thomas Cavalli-Foll, c'est du jus de branne ou c'est vraiment des pistes?
C'est vraiment des pistes. Justement, nous suivons, dans ce incroyable dossier là, de Simon DeVos, de notre journaliste Simon DeVos, nous avons suivi les premiers chercheurs de ces autres univers. C'est assez extraordinaire. C'est un projet que l'on appelle Murmure, qui est mené par le physicien Michael Sarrazin, et qui tente réellement de chercher, de prouver en fait l'existence de ces mondes branaires en essayant d'envoyer des neutrons via une autre dimension dans un monde branaire et de les faire revenir.
Donc c'est les neutrons pourraient être, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans ce dossier, des pionniers de ce voyage vers l'au-delà, et ils en reviennent en plus, c'est ça?
Exactement. En fait, au début... C'est très difficile à voir, mais il pourrait exister dans notre univers d'autres dimensions qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. L'analogie la plus utilisée, c'est celle du funambule qui marche sur une corde. Imaginez, lui, il ne peut aller que devant et derrière. Il vit en une dimension. Mm-hmm. Mais mettez une puce sur cette corde, et la puce peut, elle, tourner autour de la corde. Elle découvre une autre dimension. Donc, on imagine qu'il y a des dimensions supplémentaires dans notre univers qu'on ne connaît pas et que les particules pourraient-elles emprunter, en fait.
L'infiniment petit, oui.
L'infiniment petit, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de particules. Et qu'on imagine que ces autres branes, ces autres univers, pourraient être accessibles par un effet quantique que l'on appelle l'effet tunnel.
Donc le voyage à travers le temps serait possible dans l'infiniment petit d'un brane à l'autre ou d'une brane à l'autre.
Exactement. Elle pourrait, et donc après, elle pourrait en revenir. Et donc les chercheurs de l'expérience Murmure, ils ont d'abord prouvé que théoriquement, effectivement, une particule pouvait passer d'une brane à l'autre. Et ensuite, ils ont essayé de le démontrer. Tout ça, ce qui est assez incroyable. Donc ils sont tombés sur le neutron, ils ont fait appel à un spécialiste du neutron, parce que le neutron c'est une particule qui est déjà bien connue et qui est électriquement neutre, d'où son nom. Donc elle n'a pas d'interaction électromagnétique. Et surtout, on arrive à en produire en continu avec les réacteurs nucléaires.
Donc on peut envoyer des neutrons et les ramener, et on peut donc essayer de tester mondes, ces autres dimensions. Pour en savoir plus, j'ai envie de renvoyer nos auditeurs sur la lecture de Science et Vie, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir. Merci beaucoup Thomas Cavalli-Foll, nous avoir fait pénétrer un peu, on dirait vraiment, une série de science-fiction dans ces univers parallèles, dans ces autres dimensions et dans ces branes. On se retrouve le mois prochain, Thomas, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
Ici même, absolument. Dans ce studio autour de la question, on parle la magie des ondes, au sens propre comme au sens figuré. On va maintenant vous faire entendre un son inouï, véritablement inouï, que va commenter pour nous Émilie Martin, qui est ici même, bonjour Émilie.
Bonjour.
De Ciel et Espace. Alors ça se passe sur Mars, je vous donne quand même quelques petits détails. C'est le micro de Supercam, enfin les yeux et les oreilles du rover Persévérance sur Mars, qui a enregistré le son du vol de l'hélicoptère Ingenuity volant dans le ciel de Mars. Écoutez, parce qu'il faut quand même prêter l'oreille. Émilie Martin, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Et ça change un peu là, non ?
Oui, voilà, c'est ça. Là, on commence à entendre les pales. Donc en fait, au tout début du son, vous entendiez le vent qui soufflait sur le cratère Jezero, dans lequel s'est posée Persévérance. Et là, on entend les pales. C'est vrai que c'est émouvant.
Ah, c'est très émouvant. Et quand on voit le clip, hein, je vais renvoyer aux auditeurs sur le clip où on voit la Terre de Mars.
Enfin, c'est... Et puis le petit drone qui
passe. Et on voit le petit drone qui passe à un moment. Oui, on entend le son d'abord.
En fait, donc là, le microphone qui équipe Supercam. Et ce microphone, il a été quand même conçu en France par l'école Isae Supaéro, donc c'est quand même assez chouette. Et ce microphone, donc, là, écoute le vol du drone hélicoptère, son quatrième vol qui a eu lieu le 1er mai. Il y en a eu trois auparavant. Quatrième vol. Donc là, Ingenuity se trouvait à peu près 80 mètres du rover et a fait un petit voyage de 130 mètres aller, 130 mètres retour. Et on entend d'ailleurs, alors là, j'invite vos auditeurs à le
réécouter, bien sûr.
Parce qu'à un moment donné, on entend le retour. Ingenuity s'en va et revient.
Et je trouve qu'on entend mieux quand on voit l'image d'ailleurs, hein, mais ça, c'est nos oreilles qui doivent nous tromper peu.
On a en fait, ce qui est super aussi, c'est que c'est une belle surprise en fait, pour les ingénieurs. Ils ne s'attendaient pas finalement à entendre ce son.
Mais ils ne savaient pas déjà si le micro marcherait et puis si on entendait quelque chose sur Mars.
Oui, parce qu'en fait, non, exactement. En fait, mais c'est surtout qu'ils avaient mené des simulations avec une atmosphère martienne simulée. Et finalement, les modèles, ça se base sur des modèles. Ils n'étaient pas bien sûr de quoi mettre dans leur modèle. En tout cas, tout ce qu'ils avaient comme résultat, c'est bon, on va pas entendre grand chose. Bon, voilà, ça va être juste pour la beauté du geste et tout ça. Et finalement, leur modèle, bon, heureusement, était un petit peu faux. Bien sûr, ils ont aussi opéré une modification,
une retranscription, donc, hein, parce que les sons sont très graves.
Ils ont réussi à soustraire le vent qui souffle quand même, enfin qu'on entend beaucoup, à augmenter son de la pale pour qu'il ressortent un peu plus. Et effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils rapportent qu'on entend la note mi, une note mi assez grave qui correspond donc voilà à une voix grave d'un être humain, près 83 Hertz.
Mi sur Mars, je renvoie nos auditeurs, oui, à vraiment à ce son et à l'image donc du micro, hein, du quatrième vol d'Ingenuity sur Mars, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Alors sur Mars depuis la Terre et même jusqu'à la Lune, Émilie Martin dans Ciel et Espace, vous nous annoncez que le décollage pour la Lune, enfin la fusée lunaire de la NASA, Space Launch System, procède à ses derniers préparatifs, c'est ça ? C'est pour bientôt.
Ça, alors je me fais le porte-parole de Philippe Hénarjos, qui est auteur de ce beau papier et que vous avez l'habitude de recevoir ici.
Mais oui, avec son accent que l'on reconnaît, mais on est ravis de vous recevoir.
Merci. Voilà, donc dans ce papier, effectivement, il fait donc le point sur la SLS parce que les choses bougent un petit peu. La SLS, donc Space Launch System, c'est la fusée lunaire et ça fait longtemps qu'on l'attend, la fusée lunaire, ça fait très longtemps. On a, après l'arrêt du programme Navette qui s'est arrêté en 2011, même avant que le programme s'arrête, on imaginez déjà depuis longtemps un nouveau programme lunaire. Ce programme avait, il y a eu une première version du programme qui s'appelait Constellation, avec une fusée qui s'appelait Ares-5, mais le programme a été annulé par l'administration Obama, qui avait d'autres priorités. Et puis la fusée, le programme, est renaît de ses cendres en 2008 sous un autre nom, le programme Artemis, qui est le programme dont on parle, et sa fusée, la SLS. Et après ça, donc après ces rebondissements-là, il y en a eu d'autres, c'est-à-dire que la SLS, elle a subi des retards importants, dû à des problèmes avec les contracteurs type Boeing, des problèmes administratifs, de sorte qu'on a pris 4 ans dans la vue, la NASA a pris 4 ans dans la vue, et une facture
colossale,
c'est-à-dire qu'un surplus de 10 milliards de dollars quand même, hein, c'est pas une blague.
Wow.
Voilà.
Mais
et donc,
là...
donc on, en fait, on regardait finalement un peu l'émergence de la fusée lunaire avec prudence.
C'était un peu l'arlésienne, quoi.
C'était un petit peu l'arlésienne, exactement. Et là, il faut bien avouer que la fusée a passé un test clé. Elle a en gros ce qu'on appelle le fire run test, c'est-à-dire que ses moteurs se sont allumés. Le temps nécessaire au vol qui est prévu, donc qui aura lieu pendant 8 minutes, plus de 8 minutes.
D'accord, voilà. Donc ça c'est un bon signe. Et il aura lieu quand ce vol de la fusée toute seule sur la Lune, on a bien compris, hein, c'est pas un vol habité pour le moment.
C'est ça, alors donc il y a tout un programme qui aboutit à un vol habité, pardon, mais le premier vol, c'est donc Artemis 1, qui est prévu à la fin de l'année 2021. On est tous, enfin tout le monde pense que ça va
2022.
Glisser. 2022, mais c'est déjà pas mal. Donc là, ce sera un vol sans équipage vers la Lune et retour. Puis Artemis 2, qui lui emportera des astronautes, donc vol habité, autour de la Lune, à peu près à 100 km d'altitude autour de la Lune, pour un voyage de 25 jours et retour. Et enfin, Artemis 3, qui verra donc le retour des astronautes sur la Lune. Et on attend évidemment de savoir qui composera l'équipage. On sait déjà qu'il y aura une femme parmi ces astronautes. Et on a, nous, à Ciel Espace, on fait un peu des pronostics sur qui sera la première femme. Mais voilà, donc en tout cas...
Ah, vous nous en direz plus un peu plus tard. Et c'est prévu pour quand cette fusée habitée vers la Lune avec une femme astronaute à bord?
C'est ça. Donc Artemis 3, la date qui était avancée par l'administration Bush, c'était 2024, c'est-à-dire demain. De la même manière, on sait que ça va glisser, mais ça reste quelque chose qui devient concret. Justement, ce test-là de la fusée SLS marque un peu le pas et nous dit, là, on avance vers le programme lunaire pour, en fait, un retour durable des astronautes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un retour sur la Lune qui est prévu comme type le programme Apollo, qui était une prouesse technologique et politique. Là, on parle d'un retour durable, c'est-à-dire la construction d'une base, la construction d'une station en orbite autour de la Lune.
C'est ça. Et ben, vous reviendrez nous raconter ça, Émilie Martin. En tout cas, pour en savoir plus sur cette fusée lunaire, décollage presque immédiat à lire. Dans la revue Ciel et Espace, nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs d'astronomie. Et je sais que vous êtes nombreux sur le continent, c'est bientôt l'heure de notre rendez-vous mensuel Ciel d'Afrique, à retrouver sur nos ondes, sur notre page Facebook et sur notre page YouTube, en partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique. Quels sont les moments astronomiques à ne pas rater d'ici au 15 juin prochain sous le ciel d'Afrique? Vous le découvrez juste après avoir fait avec nous un petit tour sur la Lune, non pas seulement avec nous, avec Biflo et Oli sur RFI.
Un jour j'irai sur la Lune, un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever, et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour.
Un jour j'irai sur la Lune.
Autour de la question, comment la science infuse? Caroline Lachowski, Ciel d'Afrique, sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, ravi de vous retrouver pour notre éphéméride mensuelle. Alors, quels sont les moments astronomiques à ne pas rater sous le ciel d'Afrique d'ici à la mi-juin?
Bonjour Caroline. Alors, ça sera toujours la valse des planètes, mais seulement visible juste après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil. Il va falloir attendre encore quelques mois pour revoir vraiment des planètes toute la nuit. Alors tout d'abord, le 15 mai au soir, vous allez voir un joli rapprochement entre Mars et un croissant lunaire qui sera observable dans la constellation des Gémeaux. Mars est de moins en moins lumineuse et sera visible juste sous un petit point de magnitude 2. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la magnitude, mais pour rappel, la magnitude indique la luminosité des étoiles. Et ces magnitudes des étoiles, pour les plus lumineuses, elle est autour de 0, et pour les plus faibles, eh bien, c'est autour de 5-6. Ensuite, fin mai, début juin, on vous conseille de regarder Jupiter et Saturne en fin de nuit. En effet, le 31 mai au matin, Saturne sera juste à côté de la Lune gibbeuse, et le 1er juin, il y aura un beau triangle entre Jupiter, Saturne et la Lune. Enfin, le 12 juin, rendez-vous après le coucher du soleil, et vous devriez apercevoir un beau rapprochement entre la Lune et Vénus. Et si vous voulez continuer à observer le lendemain, eh bien vous observerez aussi une belle lumière cendrée de la Lune avec Mars juste à côté.
Donc Mars le 15 mai, triangle Jupiter-Saturne et la Lune le 1er juin, et puis rapprochement entre la Lune et Vénus le 12 juin. Et Mercure dans tout ça? Vous avez oublié Mercure, Sylvain?
Alors non, je ne l'ai pas oublié, Caroline. C'est juste que je voulais faire un gros clin d'œil à cette planète pour ce prochain mois qui est finalement assez mal connue. Je vous rappelle que Mercure, c'est la plus petite planète du système solaire, des planètes solides, hein, avec un diamètre d'un peu moins de 5000 km, soit un peu plus que la Lune. Elle est également la plus proche du Soleil, ce qui explique notamment des températures infernales qui peuvent atteindre plus de 400 degrés. Alors la surface de Mercure, elle est très cratérisée, hein, elle ressemble finalement assez à la Lune, et on en saura encore plus dans les prochaines années puisque cette planète sera rejointe par la sonde européenne BepiColombo en 2026. Alors pour observer et un peu découvrir cette planète, vous pourrez voir Mercure dans les prochains jours au coucher du Soleil sur l'horizon ouest, donc il faudra vraiment pas tarder juste après le coucher du Soleil. Et si vous avez un petit télescope, vous pourrez regarder l'évolution des phases, un peu comme la Lune, entre le 15 mai et le 25 mai, avec un quartile le 15 mai et un croissant le 25. Et le 28 mai, même si Mercure est très peu lumineuse, elle sera détectable car elle sera vraiment collée quasiment à la planète Vénus.
Ah, il faudra donc en profiter de Mercure après, si j'ai bien compris, avoir pu en observer un quartier le 15 mai et un croissant le 25 mai. Quelle constellation nous proposez-vous de découvrir ce mois-ci, cher Sylvain?
Alors, une constellation que j'aime bien, effectivement, qu'on voit bien en ce mois de mai-juin, eh bien, c'est la constellation du Bouvier. Alors, c'est pas forcément facile d'imaginer ce que c'est un Bouvier. Je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est, mais dans certaines mythologies, on parle d'un laboureur qui conduit les sept bœufs, qui sont en fait représentés par les sept étoiles de la Grande Ourse. Alors, pour trouver cette constellation, c'est assez simple. Il suffit de prendre la Grande Ourse et de prolonger la courbure de la queue de la casserole de la Grande Ourse. Et là, vous tombez sur une étoile très lumineuse, qui est l'étoile Arcturus. Et Arcturus, bah en fait, ça signifie en grec « gardien de l'ours ». Alors vous allez voir, hein, dans le ciel, cette étoile est une géante orange, donc vous voyez très bien sa couleur. Et à partir de cette étoile, vous devriez voir un grand ensemble d'étoiles en forme de cravate ou de cerf-volant.
La constellation du Bouvier, à repérer donc après la queue de la casserole de la Grande Ourse. C'est votre proposition astronomique du mois, Sylvain. On se retrouve autour du 15 juin prochain avec une nouvelle lunette astronomique à gagner et surtout à partager sous le ciel d'Afrique cet été.
Oui Caroline, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est toujours mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Alors pour participer, c'est très simple, envoyez sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Et donc le gagnant sera annoncé au mois de juillet. Bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Merci de nous le rappeler tous les mois Sylvain. Sous le ciel d'Afrique, chronique éphéméride à retrouver donc tous les 15 du mois sur les bonnes ondes de RFI en son et en images aussi. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nechowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous demain autour de la question en forme de boutade. À quoi sert la géographie? Tiens donc, à quoi ça sert? Les infos dans une minute. Émission spéciale.